Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Babacar Gaye, ancien député, ancien ministre d'État, membre du PLD, Ande Soukali. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, la bataille autour de la présidence de l'institution, les risques pour Benno et pour l'opposition, Macky Sall pourra-t-il gouverner sereinement d'ici la prochaine présidentielle, la formation du nouveau gouvernement, l'actualité sociale et économique et plusieurs autres sujets. Participez à l'émission en posant vos questions sur les réseaux sociaux avec le hashtag Grand Jury RFM. Babacar Gaye face à Babacar Fall, le Grand Jury dimanche 11h10 sur RFM.
Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury de RFM. Demain, 12 septembre 2022, qui sera sur le perchoir de l'hémicycle? L'Assemblée nationale, la nouvelle, elle sera installée. La présidence du Parlement, objet de convoitise, bataille entre coalitions, bataille même au sein des coalitions pour occuper le fauteuil. Bonjour Babacar Gaye.
Bonjour Babacar Fall.
Vous êtes expert parlementaire, ancien président du groupe du PDS à l'Assemblée nationale, mais comme déjà précisé, vous êtes membre fondateur du Parti des libéraux et démocrates PLD Ande Soukali, dirigé par Omar Sarr. Et votre parti est membre de la coalition présidentielle. Comment justement évaluez-vous votre collaboration politique avec Macky Sall?
Merci Babacar, bonjour aux éditeurs de la RFM. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour souhaiter un très bon magal, parce que je pense que c'est l'événement national qui pointe à l'horizon, à tous les musulmans et particulièrement aux mourides. Babacar, nous sommes avec le président Macky Sall à la suite donc du dialogue national qui avait été convoqué. Dialogue national auquel nous avons participé en tant que représentants d'une partie de l'opposition avec d'autres membres de l'opposition. Les résultats de ce dialogue, naturellement, nous ont poussé à accepter la main tendue du président Macky Sall qui, à l'orée de la formation du gouvernement, a demandé à notre parti d'intégrer le gouvernement et en la personne du président Omar Sarr. Depuis, nous sommes dans la mouvance présidentielle, j'allais dire dans la majorité présidentielle, et nous posons des actes qui vont dans le sens de conforter Benno Bokeyakar, même si notre parti n'a pas formellement décidé d'intégrer Benno Bokeyakar. Ça aussi, il faut le préciser. Le bilan de notre compagnonnage me semble être conforme avec les engagements, certainement, du président Macky Sall, qui n'avait pas offert autre chose qu'un portefeuille ministériel. Mais au résultat politique, on pourrait se poser beaucoup de questions parce que aux législatives et bien avant aux élections locales, je pense que le Parti des libéraux et des démocrates a souffert de cette collaboration pour n'avoir eu que Omar Sarr comme candidat dans une commune et pour n'avoir même pas eu un suppléant lors des élections législatives. J'estime que
aucun investi du PLD dans les listes Benno aux législatives.
Tout à fait. Si donc on doit en tirer un bilan politique, j'estime que c'est un peu médiocre.
Alors qu'est-ce qui fait ça? Sur quoi vous vous êtes entendu sur Macky Sall pour accepter de vous allier avec lui?
Vous savez, de prime abord, c'était pour avoir toute la latitude de pouvoir et la légalité de mettre en œuvre certaines décisions issues du dialogue politique. Nous avions pensé qu'il était conséquent, de notre point de vue, d'accepter d'intégrer le gouvernement afin de faire bouger les choses, d'accepter de participer aux réformes qui étaient attendues. Ce n'était pas pour justement partager un gâteau financier, matériel, et encore un gâteau politique, parce que à l'entame, il n'y avait aucun lien organique entre nous et ce qu'on appelle Benno Bokeyakar. C'est pourquoi certainement il n'y a pas eu autant d'attention de la part de nos alliés quand il s'est agi de investir des candidats, mais j'estime que c'est un minimum que Macky Sall et son équipe devaient à notre engagement politique et à notre solidarité à cette cause un tout petit peu difficile dans laquelle se trouve le Sénégal.
Ce dialogue qui a provoqué votre ralliement à la majorité présidentielle évaluons-le aussi. Tout ce qui a été décidé comme conclusion de ce dialogue-là, au déroulé, ça donne quoi selon vous ?
Oui, je pense que quand même ce dialogue a permis de faire quelques petits pas dans la gouvernance démocratique. Il était prévu naturellement de poursuivre, surtout dans le domaine de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation, de l'amélioration du processus électoral, qui, de mon point de vue, a donné des résultats assez positifs dès lors que l'équipe politique, je veux dire la commission politique, s'est entendue pour réformer ce qu'il fallait réformer et tout ce qu'il fallait réformer. Je pense qu'au résultat, les politiciens, entre guillemets, ont pu trouver leur pain béni dans ce dialogue politique.
Les candidatures aux élections législatives et toutes les polémiques qui les ont entourées justifient peut-être un peu l'échec.
On a réformé les conditions du parrainage, on a réformé les seuils de parrainage, on a réformé le processus de contrôle du parrainage. Je pense qu'à ce niveau quand même, il y a eu de grands efforts qui ont été faits.
Il y a eu des protestations aussi.
Ceux qui ont précédé n'étaient pas au dialogue. Ceux qui étaient au dialogue, tous ont accepté les conclusions du dialogue, y compris naturellement le camp de Tahaou qui était bien représenté en la personne de Salih Sarr au sein du dialogue politique. Donc il ne faut pas aujourd'hui qu'on revienne pour dire voilà, le dialogue n'a pas servi à grand chose. Je pense que pour les politiciens, oui. Par contre, ce dialogue aurait pu, comme il y avait une commission économie sociale, il y avait une commission sécurité, il y avait une commission décentralisation, réforme des institutions à ce niveau. Il y a quand même à redire, parce que nous n'avons pas conclu, malheureusement, ces commissions-là n'ont pas pu déposer le rapport. J'étais rapporteur de la commission décentralisation. Nous avions proposé une réforme de l'acte 3. Nous avions proposé de grandes réformes, dont celle qui a été en cours cette année, c'est-à-dire l'élection du maire au suffrage universel. Cela aussi est issu du dialogue politique.
L'acte 3, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut améliorer ?
Tout.
L'acte 3 de la décentralisation.
Il faut que la décentralisation aboutisse au transfert de pouvoir réel. Je ne parle pas de compétences choisies. Ensuite, de moyens de gestion de ces pouvoirs-là. Dans tous les pays où la décentralisation est un levier de développement, les territoires ont une existence propre, ont une autonomie juridique et une autonomie financière. Si le Sénégal veut faire de grands pas dans ce domaine, je pense qu'il est temps de copier comme ce qui s'est fait dans les grandes nations de démocratie. En France, la région a une propriété juridique et financière. Le conseil départemental y tout. En Allemagne, les Länder existent.
Conseil régional pour la France.
Oui, c'est parce qu'ici, on a détruit ce qui devait constituer, de mon point de vue, le pôle territorial.
Vous avez été président de région à Kaffrine. Pour vous, la départementalisation, c'est une pertinence.
C'est un échec. Au moment où tous les pays cherchent à regrouper les territoires en pôles pertinents, c'est-à-dire des territoires qui ont des similitudes géographiques, géo-écologiques, qui sont des territoires qui peuvent porter le développement, parce qu'avec les changements climatiques, il est, de mon point de vue, impertinent de davantage morceler les territoires. Au contraire, c'est en agrégeant des territoires qu'on peut avoir un environnement beaucoup
plus
propice au
développement. Déjà que les ressources financières sont rares.
Encore. Il faut maintenant payer.
Dans le dialogue national, puisque vous y avez dirigé la commission de décentralisation.
Malheureusement, comme j'ai dit, cette commission n'a pas pu conclure. On a terminé le rapport, j'étais rapporteur. Nous avons déposé le draft de notre rapport. Malheureusement, avec la Covid, il était difficile de regrouper les gens. Certainement, le pouvoir, entre guillemets, en a profité pour dire, écoutez, passons à autre chose.
Les ressources pour les collectivités territoriales, qu'est-ce que votre commission elle a dit sur ça? Pour que cette autonomie financière, cette capacité financière, cette force de frappe financière que les communautés, les collectivités territoriales ne s'en plaignent plus.
Nous avions pensé d'abord qu'il était indécent d'attribuer 5% de la TVA aux collectivités territoriales. Il faut aller à 15%, comme c'est indiqué.
Les associations d'élus ont déjà conclu à ça.
Ouais. Tout à fait. Comme ça, c'est des mises au sein de l'UEMOA. Ça a été une directive de l'UEMOA. Deuxièmement, nous avons pensé qu'il faut donc transférer toutes les ressources qui sont destinées à la prise en charge des compétences transférées. Par exemple, quand il faut s'occuper de la santé des populations de Linguère, il faut que l'argent qui est prévu en termes de santé pour Linguère soit transféré au conseil départemental de Linguère ou bien à la commune de Linguère, de manière que cette commune ou ce territoire puisse avoir les ressources pour pouvoir prendre en charge directement les questions de développement en matière sanitaire dans ce territoire.
Les conseils régionaux, les différents conseils régionaux avaient cette compétence-là sur l'école, un peu sur la santé parfois.
Oui, mais ils n'avaient jamais reçu les moyens qu'il fallait pour prendre en charge de manière effective les compétences transférées. Mieux, je pense que les territoires devraient pouvoir, et c'est inscrit dans l'esprit de l'acte 3 de la décentralisation, contracter avec des entreprises, contracter avec des organismes, afin que le développement puisse être impulsé à la base, sur la base de contrats, partenariats public-privé. Je pense que si on aidait un peu, si on encourageait ce processus, si on encourageait l'intercommunalité, je veux dire la congrégation de missions, de visions, de projets au sein de territoires différents, comme par exemple dans la Casamance tout entière, je vous parle des régions de Ziguinchor, de Kolda et de Sédhiou, qu'il y ait un territoire commun dans ce territoire et qu'on permette à ce territoire de contractualiser avec des entreprises, je pense que le développement agricole dans cette zone aurait pu être boosté. C'est des visions comme ça.
Le gouvernement, le régime de Macky Sall a un peu pensé à ça, non, avec ses différents pôles, pôles territoire, comme
ils disent. C'est pas la même chose. Là où j'ai des divergences profondes avec les théoriciens des pôles territoires tels que pensés par le régime de Macky Sall, c'est que pour l'instant, leur pôle territoire, c'est des pôles administratifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'administration centrale qui affecte un administrateur dans ce territoire. Nous pensons plus, nous qui sommes des acteurs de la décentralisation, nous militants de la décentralisation profonde et effective, à des pôles territoires où le territoire lui-même s'administre librement en ayant son propre collège élu au suffrage universel et en ayant ses propres directions, ses propres outils de développement. C'est ça le rêve, un pôle territoire comme Lyon, le Grand Lyon aujourd'hui.
En plus des collectivités territoriales, en plus des mairies et des conseils départementaux.
Tout à fait, c'est-à-dire un pôle territoire devrait être la conjonction de vision de plusieurs territoires. Ça peut être le département, les communes qui sont là-dedans et une partie peut-être de régions comme en France pour constituer ce qu'on appelle un pôle territoire. Exemple, pour la prise en charge de l'insalubrité, pour le nettoiement, pour l'environnement, il est possible aujourd'hui, comme c'était dans le cadre de Dakar ou bien dans le cadre du Grand Dakar avec Mamadou Diop, de mutualiser toute cette problématique au sein du territoire pôle de Dakar. Qu'est-ce que j'appelle pôle territoire de Dakar? C'est d'ici à Diamniadio. Je pense que c'est les mêmes
problématiques. Avec Mamadou Diop, c'était de Dakar à Bargny, la CUD.
Tout à fait. Mmh. Aujourd'hui, il y a un continuum territorial. Mais si on veut donner des compétences à chaque commune, on peut donner une compétence à chaque département, on peut donner une compétence à l'État, à l'intérieur d'un même territoire, il y a une cacophonie. Or, il est possible de mutualiser ces efforts-là et de confier cela à ce qu'on appelle...
Mais il y a comme une centralisation de la gestion des affaires publiques par l'État central.
Oui, mais je pense que c'est l'État jacobin qui continue toujours à avoir une mémise sur le développement. Or, c'est difficile de développer un pays. Même la France, qui est un État jacobin, a assoupli ses relations avec les territoires en acceptant que les régions d'abord et les départements aient des compétences réelles et des pouvoirs réels. Mais imaginez qu'à Lyon, le transport est du domaine de la région. L'école est du domaine de la région. La sécurité est du domaine de la région. Le préfet représentant l'administration n'est là que pour contrôler les décisions prises par l'administration locale. C'est ça le rêve que j'ai en matière de décentralisation pour le Sénégal.
Mmh. On va reparler de ce dialogue national, ses aspects politiques. On a vu des candidatures annulées aux législatives parce que ne respectant pas les différentes règles en termes soit de parité ou autre. Est-ce que l'esprit du dialogue ne devrait pas prévaloir jusqu'à ce niveau-là, c'est-à-dire permettre au maximum d'acteurs de participer aux élections au lieu d'appliquer la réglementation à la lettre sur des détails comme ça, comme disent certains?
Une loi, elle est faite pour être appliquée. Les règlements aussi. Moi, je ne suis pas pour ces arrangements politiciens sur le dos du peuple sénégalais qui a décidé, de par la loi, ses représentants, qu'il faut, pour être candidat, être parrainé par les citoyens. Dans d'autres pays, le parrainage est un parrainage d'élus ou de parrainage de personnes qui ont des ressources par le sens. Ici au Sénégal, on a décidé de remettre la démocratie à la base, permettre aux citoyens de décider qui doit y aller. Pourquoi ?
C'est beaucoup plus souple qu'ailleurs. Vous donnez l'exemple de la France.
Mais bien sûr.
Le parrainage sénégalais est beaucoup plus
équitable. Oui. C'est beaucoup plus équitable parce que si on devait aujourd'hui nous suffire d'un parrainage par les élus, certainement l'opposition aurait boycotté comme elle l'a fait avec le Haut Conseil des collectivités territoriales. C'est pourquoi moi je suis pour le parrainage. Pourquoi ? Parce que simplement il n'est pas acceptable pour un pays comme le Sénégal, qui est aujourd'hui classé 170e rang mondial en termes d'indice pour le développement humain, c'est-à-dire tout ce qui est problème de santé, tout ce qui est problème de niveau de qualité de l'éducation, tout ce qui est problème de niveau de revenu, le Sénégal est classé 170e. On se permet d'avoir 400, 500 partis politiques qui vont tous concourir en utilisant nos propres ressources pour se faire élire. Et vous savez exactement ce qui se passe quand le député est élu. Vous savez exactement le maire, quand il est élu, il oublie les raisons pour lesquelles il avait demandé le suffrage. Ce qui se passe actuellement dans le landerneau politique et ce qui pointe à l'horizon pour demain, où il sera question de mettre en place l'Assemblée nationale, doit montrer que justement les Sénégalais ont des raisons de filtrer ce qu'ils devraient aujourd'hui réclamer leur suffrage. C'est en cela que le parrainage est une bonne chose. Il faut mieux l'organiser, il faut assouplir les règles du parrainage, il faut être beaucoup plus élastique dans la durée du collecte de parrainage. Si par exemple on disait que ça se prendrait 3 mois, certainement des candidats n'auraient pas des difficultés à rassembler les parrains qu'il faut. Mais le temps est très court et souvent c'est la course aux parrains et souvent on tombe dans le piège de ceux qui sont là prêts à marchander des signatures.
Demain donc le grand jour. Le Sénégal n'avait jamais connu ça. N'avait jamais connu une Assemblée nationale pareille. La majorité sortante qui gagne sur le fil, théoriquement 83 députés pour Benno Bokoyakar et 80 pour Yewi Askanui et Wallou Réuni. Votre analyse ?
Bon, j'estime que c'est une bonne chose que le Sénégalais ait décidé d'envoyer à l'Assemblée nationale des forces équilibrées. J'allais dire des forces qui, pour l'intérêt du pays, sont obligées de collaborer de manière républicaine. La présence de l'opposition composée, vous le dites, avant de Yewi et de Wallou, parce que n'oubliez jamais que c'est une coalition électorale et qui a une vocation à disparaître après les résultats. Nous aurons en face une majorité composée de Benno Bokoyakar, qui jusqu'à présent est un bloc d'un seul tenant, renforcé évidemment par l'adhésion de Papa Diop au prochain groupe parlementaire de Benno. Sous cette forme, j'estime que nous aurons une Assemblée nationale de qualité, dans le sens que, au moins ne serait-ce que pour l'assiduité et la régularité des députés, le Sénégal va gagner. Parce qu'il est évident qu'aucun groupe ou qu'aucune coalition, entre guillemets, parce que les coalitions disparaissent, ce sont les groupes parlementaires dont il s'agira, et n'acceptera évidemment qu'il y ait des absences, parce que chaque absence sera mortelle pour tel ou tel camp. Et c'est ça l'intérêt. Et certainement les débats seront peut-être enrichis, d'autant que il ne s'agira plus, comme le pensent certains, d'un hégémonisme pesant sur les débats. Il s'agira d'un partage presque équitable des temps de parole entre l'opposition et la majorité. Faudrait-il maintenant qu'on ait les ressources humaines de qualité pour porter justement cette problématique et proposer aux Sénégalais un débat de qualité sur des questions de fond et non des invectives, des insultes et des moqueries.
Et sur les législatures les plus récentes, il y avait espoir d'avoir une qualité des débats qui n'a pas eu lieu finalement, parce qu'on a eu espoir sur ces différents profils sur ces dernières législatures et la qualité n'a pas suivi forcément.
Parce que ce qui était à l'Assemblée, de mon point de vue, avait des préoccupations autres que celles législatives. Je pense que si on est élu député, on ne doit pas utiliser la tribune de l'Assemblée nationale pour régler des questions politiques autres que celles qui se posent dans les textes qui sont proposés à l'examen. Or, ce qui était à l'Assemblée dans l'ancienne législature, comme tu l'as dit toi-même, pour les uns, il était question de peaufiner une image présidentielle. Et pour les autres, c'était une façon de combattre pour qu'un candidat virtuel puisse avoir des raisons d'espérer pour 2024. C'est cette raison-là, de mon point de vue, qui a fait qu'on n'a pas eu ce qu'il fallait. Ensuite, s'y ajoute donc ce caractère hégémonique de la majorité de Benno Bokeyakar. Aujourd'hui, Benno part de 125-126 députés à 83 députés. Je pense que c'est une leçon à retenir et c'est une nouvelle posture à adopter pour que nous puissions avoir en face de Benno une opposition responsable pour que d'ici 2027, parce que je pense que nous sommes en 2022, nous puissions avoir une législature si tant est que en 2024, le futur président ne dissolve pas cette assemblée-là.
Ah, il faut peut-être, c'est pour ça qu'il faut regretter l'absence des pontes de Yehui Askanui dans cette nouvelle assemblée nationale, parce que liste nationale de Yehui a invalidé d'abord par la direction générale des élections, puis par le conseil constitutionnel. On parlait de qualité de débat, de profil intéressant. Justement, les têtes de pont de Yehui n'y seront pas.
Ce serait une erreur pour... c'est l'erreur qu'il peut-être ne fallait pas commettre. Malheureusement, nemutur ut prium, turpitudinis elegans, comme disent les latins, on ne peut pas se prévaloir de sa propre turpitude. C'est dommage pour la démocratie, naturellement, que des personnes pressenties être de bons députés ne soient pas élues, parce qu'ils l'auraient été certainement si leur liste aurait été acceptée, avait été acceptée. Par contre, à contrario, les Sénégalais auraient pu choisir à la place d'autres Sénégalais dignes de responsabilité, tout aussi compétents, qui ont un profil d'intégrité, malheureusement, qui ont été diabolisés et qui n'ont pas été élus.
Je pense allusion à Art Sénégal.
Absolument. Je pense que votre logique, elle est bonne, mais il faudrait que ça s'applique, erga omnes, pour que nous puissions, à l'avenir, choisir nos représentants en fonction de leur profil et non en fonction des intérêts politiques.
La sociologie électorale du Sénégal, c'est une matière intéressante sur laquelle peut-être les experts devraient se pencher. Qu'est-ce qui se passe? Le comportement électoral du Sénégalais.
On a tendance au Sénégal à voter contre et non pour. On a tendance à exclure et non à choisir. On a tendance à voter pour le dégagisme et non pour un projet politique cohérent. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, naturellement, pendant ces élections législatives, au lieu de voir le profil de ce qui devait aller à l'Assemblée nationale, on a essayé de sanctionner le président Macky Sall qui n'était ni candidat qui n'était pas impliqué dans les élections.
La part des responsabilités des hommes politiques, à la place de propositions de fond, c'est du « haute-toi que je m'y mette ».
Mais je suis d'accord avec vous, c'est ce que je dis. Et malheureusement, le peuple adhère. On ne va plus au fond du débat, on n'exige plus de l'homme politique un projet politique adossé à des valeurs, mais il suffit simplement de tirer sur celui qui est en train de gérer pour se donner une certaine notoriété, pour se donner une respectabilité. Et sous ce rapport, si aujourd'hui le Sénégal est confiné à une situation où les leaders politiques les plus en vue ne sont pas ceux qui sont porteurs de projets, c'est qu'il y a un problème très sérieux. La classe politique me semble avoir échoué parce que à leur place, je veux dire, cette bonne classe politique, cette bonne graine dont tu fais allusion, à leur place qu'on ait des représentants peu qualifiés pour les représenter, cela pose un sérieux problème. Les démocraties qu'il faut régler, c'est vrai, autour du dialogue, autour des discussions, pour que les grands agrégats puissent être remis en place. Nous ne pouvons pas faire l'économie d'un dialogue politique de qualité entre les acteurs pour que notre démocratie puisse survivre à ce que nous sommes en train de vivre actuellement.
Les observateurs, les militants de la démocratie sont satisfaits de ces résultats, de ces élections du 31 juillet, les dernières législatives, des résultats qui sont un mauvais signe ou pas pour Benno, pour les prochaines compétitions électorales, notamment la présidentielle 2024 ou pas?
Mauvais signe, peut-être pas. Un signal fort, oui. Je pense que Benno doit se ressaisir et doit avoir une lecture froide de cette raclée, il faut le dire comme ça. Je n'ai pas aussi les froids aux yeux pour le qualifier de raclée, et se réorganiser au fin de se remettre au travail. Quand je dis se remettre au travail, c'est à la fois au plan politique, mais aussi au plan économique et social. Je pense que Bernot manque de direction politique. Tout est centré autour du président Macky Sall, qui est aujourd'hui président de l'Union africaine, président de la République du Sénégal et ensuite président de l'APR. De mon point de vue, c'est trop de charges pour une coalition ou pour une majorité qui fait aujourd'hui face à une opposition.
Malgré l'existence de l'instance appelée conférence des leaders.
Vous savez, une direction politique, ce n'est pas une juxtaposition de sigles. Je pense que c'est une organisation qui a une vision claire, une stratégie bien pensée, des hommes de qualité et des moyens pour agir. Il ne s'agit pas de rassembler Tartampion, Moussa Diop et Demba Dieng pour faire une direction politique. Une direction politique doit avoir la latitude d'agir quand il le faut et de réfléchir avant l'action. Or, il me semble ici qu'on se réunit en conférence des leaders que quand il y a de grandes décisions à prendre, par exemple quand il faut faire un remaniement ministériel, quand il faut aller aux élections. Or, Bernot manque de cadre de concertation réel pour que entre les leaders politiques, qu'il y ait d'abord des discussions franches, parce que c'est ça qui, de mon point de vue, renforce la collaboration, mais aussi il faut avoir des outils et des mécanismes de pour faire fonctionner les différentes structures de Bernot, que ce soit la structure des femmes, la structure des jeunes, la structure des cadres. Aujourd'hui, tout est en dormance et le président Macky Sall a aujourd'hui une responsabilité énorme, c'est de réveiller le mammouth qui dort.
Oui. Ce que vous êtes en train de dire, une vraie direction politique, la LD d'Abdoulaye Bathily, lorsqu'elle était encore à la CAP 21, les partis qui soutiennent Abdoulaye Wade, à l'époque, Abdoulaye Bathily et son parti avaient proposé la DPU, la direction politique unifiée. Le PDS n'avait pas accepté.
Absolument, et je suis heureux aujourd'hui de constater qu'il avait raison. Peut-être pas une direction politique unifiée, mais tout au moins une direction politique qui agit. Parce que Abdoulaye Bathily, dans sa proposition, si je comprends bien, c'était de faire de telle sorte qu'il y ait un grand parti politique présidentiel où, après le président Abdoulaye Wade, certainement c'est un des ténors de l'opposition d'alors, ou en tout cas de ses soutiens d'alors, que ce soit Bathily, Dansoro ou Landing Savané, qui devrait peut-être venir comme étant un second. C'est ça qu'il a voulu théoriser en termes de direction politique unifiée, structurer la majorité présidentielle. Ici, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de créer un cadre de concertation, un cadre d'action, un cadre de réflexion d'abord et d'action après, autour du président Macky Sall. Il peut même, à la limite, déléguer cette fonction de coordination de cette direction politique. Je pense qu'Abdoulaye Bathily avait une vision claire que, comme la CA 2000 s'était organisée pour aller au pouvoir, c'est-à-dire conquérir, assurer l'alternance, il était normal de se constituer en une équipe politique soudée qui réfléchisse de la même manière et qui agit de manière coordonnée. Aujourd'hui, de mon point de vue, il y a cette insuffisance au sein de Bernot et la PR n'étant pas un parti structurellement bien organisé, il faut le reconnaître, parce qu'il n'y a pas eu de renouvellement, je pense que à côté ou en marge, il faut avoir une structure beaucoup plus renforcée, mieux organisée pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais à travers justement la coalition Bernot Bakayoko.
Les Sénégalais ont la question avant ces développements, c'était la lecture qu'il faut avoir côté Bernot de ces résultats, de ces législatives. On a parlé de la présidentielle 2024. Votre parti, le PLD, cautionnerait-il une troisième candidature de Macky Sall en 2024?
Babacar, vous savez, je suis tenté de vous poser une question en retour. Depuis que vous êtes dans ce CEO et depuis 2019, chacun de vos invités reçoit la même question. Mais en réalité, quelle est la réponse que vous attendez?
C'est selon, cela dépend.
Mais si depuis 2019, vous n'avez pas une réponse sur cette question...
Ça il y a des pour, il y a des contre.
Justement, ça veut dire qu'il va falloir attendre le dénouement. Car il n'y a pas de réponse de mon point de vue à cette question sans le dénouement. Le dénouement, c'est quand? Le dénouement, quand il s'agira de déposer les candidatures, on verra si le président Macky Sall, à qui on prête une intention d'y aller, va y aller ou va décider de ne pas y aller. C'est en ce moment peut-être que notre parti pourra apporter une réponse politique à cette situation politique. En tout état de cause, si aujourd'hui cette question se pose uniquement un troisième mandat, alors que cette affaire doit être tranchée, de mon point de vue, par les règles constitutionnelles en vigueur, il y a de l'autre côté des candidatures annoncées et, comme vous le savez, qui ne peuvent pas prospérer. Et pourtant, ce débat ne se pose pas. On a l'impression qu'il y a une façon assez sibylline de poser ce débat de la probable candidature ou de l'hypothétique candidature ou de la potentielle candidature du président Macky Sall, c'est selon. Alors que de l'autre côté, face à la loi, face au règlement, certainement il y a des candidatures impossibles
qui sont
agitées. Il y a un hiatus, je voudrais comprendre.
On va reparler de ces deux-là, mais avant, dites-nous alors, quelle est votre compréhension, quelle interprétation faites-vous de ce que la Constitution dit sur les mandats présidentiels et du cas Macky Sall?
Il n'y a pas de cas Macky Sall. Il y a le cas d'une loi qui a été votée en 2016. Babacar, certainement le VAR est là. En 2016, je vais demander aux populations de ne pas voter la réforme constitutionnelle parce que, de toutes les façons, si cette loi passait, je veux dire ce référendum passait, vous risquez de permettre au président Macky Sall de briguer une troisième candidature. Parce que dans la loi, il n'y avait aucune disposition transitoire pour trancher la question. Si des professeurs éminents comme Zwanke, qui a été mon professeur à l'ENAM, comme Babacar Gueye, ont posé le débat en termes de, j'allais dire, d'absurdité de la rédaction de cet article-là, ça pose un problème et ça a commencé à le poser depuis l'élection du président Macky Sall en 2019. Ce qui agite la question depuis lors, c'est parce qu'en réalité, ils sont convaincus que juridiquement, le président de la République peut avoir une troisième candidature. Mais certainement, ils vont insister sur ses déclarations, sur ses écrits, pour poser une question d'ordre moral. Vous savez, la politique, on en fait avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans. Il faudrait que les gens soient convaincus que ce qui importe pour l'opinion publique et pour les Sénégalais, je vais dire, c'est être... quand on est un homme politique, c'est d'être conforme avec les règles écrites, certes, mais aussi avec les règles non écrites. Il ne faudrait pas que ce qui, aujourd'hui, exige du président Macky Sall une conformité de son action future aux règles non écrites, que eux-mêmes ne se conforment pas aux règles non écrites parce que, en réalité, il n'y a que dans nos démocraties où un homme politique est impliqué dans des situations assez cocasses au plan judiciaire et qu'il ne mette pas à l'aise la justice pour que la lumière éclate. Ça, c'est des questions d'ordre moral. Ce ne sont pas des règles écrites en matière de démocratie. Il faudrait qu'on s'entende nous tous autour de ces questions et voir...
Vous allez peut-être ajouter cette promesse de ne pas cumuler des mandats, promesse formulée par certains partis politiques et jusqu'ici qui ne la respectent pas.
Et ça fait partie de ce que j'appelle des règles non écrites. Et ça procède de l'éthique. Or, quand il s'agit d'éthique, c'est à l'échelle humaine que l'on doit l'apprécier. C'est-à-dire, c'est à l'homme de décider de transgresser des règles éthiques ou pas. Ce n'est pas des règles morales, c'est des règles éthiques. Ce n'est fixé nulle part, mais c'est au niveau de la personne que l'on décide de faire ou de ne pas faire. Mais du point de vue juridique, je ne vois pas pourquoi le président de la République actuel ou n'importe qui aurait été à sa place aujourd'hui n'aurait pas eu ce droit de déposer une candidature, comme ceux qui n'en ont même pas le droit ont le droit de déposer une candidature. Il appartiendra au Conseil constitutionnel le moment venu de trancher la question.
Justement, cette présidentielle, faut-il l'ouvrir à Karim Wade et à Khalifa Sall, leur permettre de retrouver leurs droits civiques pour qu'ils puissent se présenter eux aussi?
Vous savez, ça c'est une question d'ordre, j'allais dire, moral. Hein. C'est pas dans l'ordre normal des choses que l'on veuille utiliser la politique pour absoudre ceux qui ont été condamnés par la justice. Sinon, ce serait une porte ouverte et qu'on permettrait à toute autre personne qui serait tombée sous le coup de la loi de revenir dans la société en ayant les mêmes droits que les autres. Je pense que la sanction, certains refusent qu'elle soit éternelle, mais je pense que si on parvient à franchir certaines limites, au plan politique, je pense qu'on devrait être banni de manière à vie. C'est mon avis personnel. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont aujourd'hui en jeu, que ce soit Karim Ouad, que ce soit Khalifa Sall, ne puissent pas être porteurs d'une espérance d'être amnistiés. Je suis pour, évidemment, qu'on les amnistie, mais il faudrait qu'ils acceptent au moins d'en faire la demande et d'accepter que cette amnistie-là ne soit pas une affaire politicienne, pour que le Sénégal puisse se reconstruire autour d'un projet commun, qu'on fait tabula rasa des situations difficiles qu'on a vécues. Et sous ce rapport, il y a des efforts à faire du côté du pouvoir, mais aussi du côté de l'opposition, pour qu'ils puissent s'entendre sur ces questions-là. Qu'est-ce que Khalifa Sall et Karim Ouad offrent à ceux qui sont aujourd'hui ont intérêt à ce qu'ils ne soient pas candidats pour qu'ils acceptent leur amnistie? C'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il appartient aux équipes qui soutiennent Khalifa Sall et Karim Ouad d'ouvrir le bal et de proposer certainement une voie de sortie de crise.
Les déclarations de candidature, cette question rejoint votre développement de tout à l'heure, les déclarations de candidature d'Ousmane Sonko et de Malick Gakou de Yehu Askanui.
Mais ça prouve juste que Yehu Askanui n'était qu'une coalition électoraliste. Hein. Dès qu'on a franchi le cap des résultats et que les uns, comme Ousmane Sonko, ayant perdu toute possibilité d'une existence parlementaire, ont compris très tôt qu'il fallait engager la problématique de la candidature unique au sein de l'opposition, d'une part, mais d'autre part, de poser le débat en termes d'un candidat qui pourrait demain répondre devant le juge. Babacar, je te fais une confidence et je sais que tu le sais. Je l'avais dit à Mamoudou Ibrakane. Quand j'ai déclaré la candidature de Karim Ouad, c'était pour lui donner une épaisseur politique afin que son procès puisse être reconsidéré. Parce que l'opinion publique nationale et internationale aurait retenu qu'on est en train de juger le candidat du principal parti de l'opposition. Je pense, sans peut-être avoir raison, que Ousmane Sonko est en train de faire la même chose, d'utiliser la même stratégie, pour que demain, s'il doit répondre devant le juge à propos de l'affaire Hadji Sarr, que l'opinion publique, que les journalistes, que tout le monde dise, tiens, on est en train de traîner en justice le principal candidat, le principal challenger du président de la République. Je pense que c'est intéressant comme approche politique et c'est à son honneur d'user de ses subterfuges afin de pouvoir exister politiquement. Pour le cas de Gakou, je trouve que c'est normal. Et le parti de Gakou a été lésé dans cette alliance-là. Et pourtant, Malick Gakou a tout fait. Malick Gakou a été l'un des bâtisseurs de cette grande coalition. Malick Gakou a utilisé ses moyens pour l'existence de cette grande coalition. Malheureusement, au finish, zéro député pour le grand parti. J'estime que c'est une des raisons peut-être pour lesquelles, sans crier haut, sans faire des revendications politiciennes, il a décidé de présenter sa candidature pour montrer aux autres que notre compagnon s'arrête là.
Retour à l'Assemblée nationale, Babacar Gaye, expert parlementaire, ancien président de groupe, le groupe du PDS, à l'époque l'Assemblée nationale. Que va-t-il se passer demain, 12 septembre, avec cette majorité parlementaire, on va le répéter, fragile de Benno, et dès demain déjà, jour d'installation de cette 14e législature, Benno est-elle vraiment sûre de garder le fauteuil de la présidence du Parlement?
En politique, on n'est jamais sûr de ce qui doit advenir. D'autant que, comme vous le dites, c'est une majorité très fragile. Mais j'estime que Benno Bokeyakar a les moyens politiques d'assurer l'élection de son candidat. Pour plusieurs raisons. D'abord, je ne vois pas pourquoi.
Les moyens politiques, c'est quoi? C'est
la cohésion, la solidarité, une lecture correcte des enjeux d'un échec d'un candidat de Benno Bokeyakar si jamais ça devrait être le cas demain. Je pense que les députés de Benno Bokeyakar sont conscients de cela et c'est ce que j'appelle les moyens politiques et ils ont aussi le nombre qu'il faut pour élire leur candidat dès le premier tour. Je pense que, contrairement à ce que les gens pensent, c'est vrai, le vote, il est secret parce que, mais malheureusement, n'oublions jamais qu'il n'y a jamais eu d'isoloir à l'Assemblée nationale pour ces votes-là. Les députés votent après avoir choisi leur bulletin de leur siège. Si j'étais leader de Benno Bokayakar, j'aurais rassemblé tous mes députés dans un même camp, du même côté, pour pouvoir voter en bloc pour notre candidat. Ce n'est pas interdit.
Ce sera peut-être décidé dans le séminaire d'ailleurs que les députés de Benno ont donné ce week-end d'ailleurs, un séminaire à huis clos qui se termine aujourd'hui.
C'est naturel, tous les partis politiques, tous les grands partis, toutes les coalitions partis politiques organisent ce séminaire, organisent ce rassemblement avant d'aller à l'hémicycle. Même pendant l'élection des maires, à l'époque, je ne parle pas de maintenant parce qu'on l'élit au suffrage universel direct. Avant, quand il s'agissait de voter par les conseillers, c'est-à-dire une élection indirecte, toutes les coalitions et tous les partis politiques regroupaient l'ensemble des conseillers pour éviter des fuites, pour éviter une dislocation du groupe. Je pense que c'est normal que Benno s'organise comme ça. Et certainement, si l'opposition, entre guillemets, composée de Yewi et de Wallou, s'entendent sur une candidature unique, ce sera aussi le cas.
Est-il normal qu'on ne sache pas jusqu'à présent qui est le candidat ou la candidate de Benno pour la présidence de l'Assemblée nationale ? Cacher son jeu jusqu'au jour J, est-ce que c'est une stratégie prudente ?
Mais oui, bien sûr, parce que vous savez, c'est des questions stratégiques, d'abord. Parce que vous savez, il y a des décisions qui peuvent frustrer les uns. Et surtout que il n'y a pas qu'un ou qu'une seule prétendant pour le perchoir demain au sein de Benno Bokayakar. Il se sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont des ambitions d'être président ou président de l'Assemblée nationale. J'estime que dans les grandes démocraties, même en France, on ne connaît pas avant l'élection au perchoir qui doit être le président, même si politiquement on peut comprendre que telle personne est pressentie pour diriger
situation assez complexe l'Assemblée nationale. Ben non, pour Macky Sall,
cette fois-ci l'opinion retient qu'il y a des pressentis ou qu'il y a un ou une pressentie qui aurait pu aujourd'hui être président de l'Assemblée nationale. J'estime que je vois pas pourquoi Mimitori ne peut pas ou ne devrait pas être la candidate de Benno Bokayakar. D'abord, elle a conduit la liste Benno Bokayakar, elle a le profil de l'emploi, et j'estime que c'est aujourd'hui l'une des figures qui, de mon point de vue, devrait revenir aux affaires. Je pense à elle, je pense à Lingou Ndiaye, je pense à Amadou Ba, je pense à Cissé, je pense à tous ces grands cadres-là.
Le choix d'un l'un et de l'autre aura forcément peut-être des conséquences politiques au sein de la majorité, au sein de l'APR, pour être d'ailleurs plus précis.
Je ne pense pas. Je pense qu'il y a assez de possibilités pour la majorité, pour ne pas dire le président de la République, pour que nous puissions utiliser nos ressources humaines partout où il faut et avec celui qu'il faut. Le perchoir est une position politique intéressante. Il y a d'autres positions politiques intéressantes qui sont encore disponibles. Je ne vois pas pourquoi les hauts cadres de Benno, les grands responsables de Benno, ne s'entendraient-ils pas pour juguler cette situation cocasse dans laquelle ils se trouvent actuellement. Il faut savoir raison garder et comprendre que toute ambition démesurée qui pourrait fragiliser le Benno, de mon point de vue, serait un danger presque irréversible pour la gestion du pouvoir et pour le régime.
La possible formation de plusieurs groupes parlementaires, même pour Benno, on annonce au moins deux groupes pour Benno. Stratégie face peut-être à la multitude de groupes parlementaires qui pourraient exister pour l'opposition dans cette nouvelle Assemblée nationale. Cette multitude de groupes.
Quoi ? Qu'est-ce que vous en dites ?
Et le débat autour, les conséquences financières, même si certains minimisent, mais...
Il n'y a pas minimisé, il y a des conséquences financières réelles. Ouais. Il y a des conséquences financières réelles de si on devrait avoir plusieurs groupes parlementaires. Babacar, un groupe parlementaire a un président, un vice-président et des moyens matériels et financiers.
Une caisse noire. Oui. Pour ainsi dire.
Non, ce n'est pas une caisse noire, c'est des moyens fixés par le règlement afin de permettre aux groupes parlementaires de fonctionner. Les groupes ont besoin de faire des réunions et sous ce rapport, je pense que l'Assemblée nationale s'est organisée. En mon temps, cela n'existait pas, hein, je confesse. Mais le président du groupe parlementaire, il a le salaire d'un ministre, selon la loi, hein, à tout le moins le salaire d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. Son vice-président a le même salaire que le président de commission, les mêmes avantages que le président de commission, c'est-à-dire carburant, téléphone, voiture. S'y ajoute maintenant cette cagnotte dont tu parles pour le fonctionnement du groupe parlementaire, ce que tu appelles fonds politiques ou caisse noire, si c'est long. En tout cas, nous sentons aujourd'hui au sein de l'opposition au moins qu'il y a une velléité de démultiplication des groupes parlementaires. Les uns pensent que c'est pour avoir des temps de parole. Ce n'est pas vrai. Le temps de parole n'a de sens que si le débat est organisé. Et en général, c'est lors de la déclaration de politique générale. Donc, ce n'est pas une affaire de temps de parole. Le président du groupe parlementaire va parler autant que n'importe quel autre député. Autant qu'il y a de groupes parlementaires, c'est autant qu'il y aura de députés au sein de telle ou telle autre majorité ou minorité. Donc, il y a un besoin, de mon point de vue, à avoir des moyens financiers, à avoir une stature et avoir peut-être des moyens matériels à des fins politiques. En général, tous les partis politiques qui ont des groupes parlementaires, c'est le groupe parlementaire qui finance le parti. En tout cas, au PDS, quand on est dans l'opposition, c'est comme ça que ça se passait. Est-ce que Benon, ou est-ce que du moins l'opposition est en train de démultiplier les groupes pour d'abord régler les questions de leadership, ou est-ce que l'opposition est en train de créer plusieurs groupes parlementaires pour pouvoir, un, gêner la majorité, parce qu'en réalité, il y a des conséquences politiques. Quand on est président du groupe parlementaire, on est membre de droit de la conférence des présidents, on est membre de droit du bureau.
Et la stratégie envisagée de Benon, c'est au cas où l'opposition aura plusieurs groupes parlementaires, de fractionner Benon en deux groupes. Est-ce que vous, en tant qu'expert électoral, pensez que c'est une bonne réplique à cette éventualité-là?
Absolument, ça dépend du nombre de groupes que mettrait en place Benon et ça dépend de la taille des groupes que mettrait en place du moins l'opposition. Tout dépend, de mon point de vue, de la décision de l'opposition afin de submerger Benon au sein de l'hémicycle. Vous savez, il n'y a pas que des manchots au sein de Benon Bakayokar, en termes parlementaires. Et autour de Benon Bakayokar, il y a de grands experts dans le domaine, dans ce domaine. Il est évident que les conseils nous donnerons à notre majorité, c'est d'être vigilant, c'est de se préparer à toutes les éventualités pour que notre force et notre majorité actuelle à l'Assemblée nationale se traduire dans les décisions qui vont se faire au bureau et à la conférence des présidents.
Le nouveau gouvernement, quel premier ministre pour Macky Sall?
Ben, c'est lui qui sera là pour avoir une bonne lecture des décisions issues des élections locales et des élections législatives. Quelqu'un qui pourrait, en 15 mois, redresser la barre et faire de telle sorte que les Sénégalais se réconcilient avec leur majorité.
L'international, on va finir par ça, avec ça. La mort d'Elisabeth II, reine d'Angleterre pendant 70 ans, quelques jours avant, Mikhail Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, sa chute et la chute du mur de Berlin qui symbolise la fin de la guerre entre les deux blocs dans le monde. La disparition de ces deux figures internationales, le monde n'en a pas beaucoup changé. Fracture et fraction, avec les plus forts qui écrasent toujours les plus faibles.
Oui, le monde n'en a pas trop changé, je ne suis pas sûr. Hein, parce que la disparition de Gorbatchev, certes, n'a pas eu d'incidence parce que Gorbatchev n'était plus aux affaires depuis très longtemps. Et ceux qui l'ont remplacé, ou celui qui l'a remplacé actuellement, est en train de faire comme il sent la Russie. Et pour ce qui concerne la reine Elisabeth II, je pense que quand même ça aura des conséquences sur l'ordre mondial, d'autant que cette grande dame, cette majesté, a marqué de son empreinte l'évolution de la décolonisation dans beaucoup de pays en Afrique, en Inde. Et je pense qu'elle a joué un rôle capital pour l'équilibre mondial. Elle a pu montrer que la coopération entre les nations est possible si les uns et les autres se respectent. Donc, elle est partie. Elle va laisser une tradition. Est-ce que Charles III, s'il accepte de gouverner, de régner, excusez-moi du terme, parce qu'en Angleterre, la reine règne, elle ne gouverne pas. Donc, si Charles III accepte de régner, je pense qu'il devrait s'inscrire dans la même dynamique que sa défunte mère, et voir de telle manière à ce que le rôle de l'Angleterre dans le monde soit renforcé pour le grand bonheur de l'humanité. De toutes les façons, c'est une grande perte, les deux, pour Gorbatchev comme pour la reine Elisabeth II. J'en profite pour lui rendre hommage et m'incliner devant sa dépouille, présenter mes condoléances au peuple anglais, mais surtout au Commonwealth tout entier.
Merci Babacar Gaye d'être passé devant le grand jury des RFM, ancien ministre d'État, ancien député, ancien président de la région de Kaffrine, membre fondateur du PLD,
Anne Sokoli,
parti dirigé par Omar Sarr. Merci à tous de nous avoir suivis et à Abdou Thiam qui était à la régie. Bonne fin de week-end et prudence sur les routes du Grand Maghreb de Touba.
Surtout. Merci Babacar.